France Inter, 7h.
France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Soyez les bienvenus, bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 21 octobre. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, vers des mises en examen dans l'enquête sur l'assassinat de Samuel Paty vendredi dernier à Conflans-Sainte-Honorine. 7 personnes doivent être présentées à un juge dans la journée. Qui sont-elles? Que leur reproche-t-on? Le point en direct sur l'enquête après les autres titres, Agnès.
Avant l'hommage national ce soir, parole d'anciens élèves de Samuel Paty. Ils participaient hier soir à une marche blanche. Une rallonge de plus de 2 milliards d'euros pour l'hôpital public alors que la deuxième vague de Covid frappe de plein fouet avec des premiers transferts de patients. La crainte en Tunisie de nouvelles lois sécuritaires sous couvert de lutte contre le terrorisme. Et puis un mauvais scénario qui se répète pour le PSG, battu hier soir au Parc des Princes par Manchester United.
Les invités de France Inter en cette journée d'hommage donc à Samuel Paty. À 7h50 avec vous Léa.
Il est celui que nous avons envie d'entendre, besoin d'entendre ce matin, la voix incontournable. Robert Badinter sera avec nous à 7h50.
À tout à l'heure, on se retrouvera Léa à 8h20 pour le grand entretien de la matinale. Deux invités ce matin, l'historien Denis Péchanski qui travaille sur la mémoire des attentats. Également à notre micro, l'écrivain Marc Weitzman qui avait publié chez Grasset il y a 2 ans un temps pour haïr. Vos questions au 01 45 24. 4-7000.
France Inter.
Les gardes à vue des 16 personnes interpellées dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Samuel Paty se sont donc achevées hier soir. 9 personnes ont été libérées, notamment les parents, le grand frère et le petit frère du meurtrier. 7 gardés à vue, dont 2 collégiens, vont en revanche être présentés à un juge dans la journée. Bonjour Ariane Grissel.
Bonjour.
Parmi ces 7 personnes, le père de famille à l'origine de la première vidéo, dont on sait à présent qu'il a été en contact avec le tueur avant l'attaque.
Oui, le père d'une élève de Samuel Paty, c'est lui qui a lancé la campagne contre l'enseignant sur Internet. Dans sa vidéo, il laisse son numéro de portable. Les investigations ont montré qu'Abdullah Kanzorov, l'assaillant, lui a envoyé des messages dont le contenu n'a pas été révélé. Les enquêteurs cherchent surtout maintenant à savoir si le père de famille a encouragé, voire aider le meurtrier à passer à l'acte. Parmi les autres personnes qui doivent être présentées à un juge antiterroriste aujourd'hui pour être mises en examen ou placées sous le statut de témoin assisté, 2 élèves effectivement du collège où travaillait Samuel Paty. Ils sont soupçonnés d'avoir désigné l'enseignant à son assassin contre de l'argent. Également déféré, le militant islamiste radical Abdelhakim Sefrioui, qui a accompagné le père de famille dans ses actions contre l'enseignant.
Alors justement, Ariane, Abdelhakim Sefrioui, le fondateur du collectif Cheikh Yassine, collectif que s'apprête à dissoudre Emmanuel Macron.
Oui, la décision doit être actée ce mercredi en Conseil des ministres. Cheikh Yassine a été créé en 2004 après la mort de ce leader palestinien, fondateur du Hamas. Depuis, le collectif est surveillé par les services français de renseignement. Abdelhakim Sefrioui s'illustre régulièrement par ses discours antisémites et des rassemblements devant des mosquées tenues par des imams qu'il juge infidèles, comprenez, trop modérés à ses yeux. Abdelhakim Sefrioui est fiché S du côté du ministère de l'Intérieur, on l'assure. Il est resté sous surveillance pendant les jours qui ont précédé la mort de Samuel Paty et a été tout à fait correctement suivi.
Merci Ariane Grissel. Ce mercredi sera une journée d'hommage national avec donc une cérémonie à 19h30 dans la cour d'honneur de la Sorbonne à Paris, en présence de 400 personnes, dont une centaine d'élèves d'établissements d'Île-de-France. Emmanuel Macron prendra la parole pour rendre hommage à Samuel Paty, à qui sera remis à titre posthume la Légion d'honneur. Un premier hommage a été rendu hier soir à l'enseignant lors d'une marche blanche à Conflans-Sainte-Honorine, la ville où il enseignait. Des milliers de personnes se sont rassemblées, dont de nombreux anciens élèves que Yann Gallic a rencontrés.
Ils se souviennent d'un professeur proche de ses élèves, toujours à l'écoute et passionné. Un prof qui savait nous faire réfléchir, raconte Adam et Sophie, aujourd'hui lycéens. Ils ont suivi tous les deux le cours de Samuel Paty quand ils étaient au collège.
Il avait une éloquence, il nous donnait envie d'écouter son cours. Il faisait des blagues aussi. C'est pas du tout un professeur qui a un mauvais fond, qui est
très ouvert d'esprit. En fait, il y avait un texte de Lénine, donc pour la propagande bolchevique, je crois, qui nous avait demandé à chacun de déclamer. selon si on était convaincant quand on lisait. Il nous disait, bah, là par exemple, sous le régime bolchevique, toi t'aurais pas survécu, toi t'aurais survécu, et ça nous a marqué parce que ça mettait vraiment en contexte en fait.
Les anciens élèves du professeur assassiné partagent leur peine, leur colère aussi. Comme Enzo et Valentina, ils étaient hier soir dans les rues de Conflans-Sainte-Honorine pour la marche blanche en hommage à Samuel Paty.
C'était mon prof d'histoire préféré, sachant que vendredi, je lui ai dit bonnes vacances, et puis là, voilà quoi, je pensais pas que ça allait faire ça.
Il va y avoir un hommage national, ça représente quelque chose pour vous?
C'est très important, faut faire un hommage national. Faut pas oublier ce qui s'est passé, faut qu'il reste gravé dans l'histoire son nom. Ah, mais c'est pas chiant.
Faut faire en sorte que ça n'arrivera plus.
Enzo et Valentina dénoncent l'influence des réseaux sociaux dans cette tragédie. Ils espèrent surtout, disent-ils, que Samuel Paty ne sera pas mort pour rien.
Yann Gallic, reportage. Et justement, peut-on accélérer les procédures en matière d'incitation à la haine en ligne? C'est un article à lire sur franceinter.fr. De son côté, le recteur de la Grande Mosquée de Paris demande aux imams de consacrer leur prêche de vendredi à la mémoire de Samuel Paty. Ces derniers jours, de nombreux imams ou recteurs de mosquées ont pris la parole ou signé des tribunes. Une mobilisation que saluent les défenseurs d'un islam de France. Julie Pietri.
Un acte inqualifiable pour Tarek Oubrou, imam de Bordeaux, abject, dixit Mohamed Moussaoui, président du Conseil français du culte musulman. Depuis l'assassinat de Samuel Paty, un large appel à la mobilisation a été lancé contre l'obscurantisme et la haine. Depuis 2015, il y a clairement eu un tournant, analyse Khaled Benchir, islamologue et président de la Fondation pour l'Islam de France, créée en 2016 pour pousser justement en faveur d'un islam d'idées lumières. Les condamnations des dérives, des crimes sont de plus en plus claires, oui, mais il faut des actes et vite, insiste Hakim El Karoui, président de l'association musulmane pour l'islam de France, car nous avons perdu la bataille des idées face aux frères musulmans et aux salafistes sur les réseaux sociaux et sur le terrain. Face à ce constat froid, les deux hommes sont d'accord, il faut se battre aussi sur le terrain religieux, bâtir un puissant contre-discours avec analyse critique des textes qui rappellent aujourd'hui simplement aux jeunes que l'enseignant est une figure sacrée en islam, ajoute Khaled Benchir. Sa fondation, qui travaille notamment à la formation des imams, a failli fermer ses portes faute de moyens. Une aide de 10 millions d'euros vient d'être annoncée, salutaire, et si peu en même temps face au défi titanesque.
Et rappelons que l'ancien garde des Sceaux, Robert Badinter, sera à 7h50 l'invité de France Inter.
Il est 7h07, Agnès, une rallonge budgétaire pour l'hôpital.
Une rallonge de près de 2,5 milliards d'euros pour faire face à la deuxième vague de Covid-19. Une rallonge qui entre dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécu, actuellement discuté à l'Assemblée. Car les chiffres restent alarmants. Solène Lehen, 163 décès au cours des dernières 24 heures et de plus en plus de patients Covid dans les services de réanimation.
Alors que les soignants sont épuisés, alors que la deuxième vague de l'épidémie surgit, on ne peut pas se permettre de compter les sous, estime l'entourage d'Olivier Véran. Tant pis pour le trou de la Sécu, le ministre de la Santé a donc décidé d'ajouter 2,4 milliards d'euros au budget de l'hôpital pour cette année, une rallonge qui s'ajoute à celle d'1,5 milliard au printemps dernier pour la première vague. Cet argent servira d'abord à compenser les pertes de l'hôpital. À force de repousser ou annuler des opérations rentables, les hôpitaux subissent un manque à gagner, d'autant qu'ils ont dû en plus dépenser et s'équiper davantage pour faire face au Covid. Dans cette enveloppe, 400 millions d'euros serviront aussi à payer les hausses de salaire négociées lors du Ségur de la Santé, les dernières hausses qui vont intervenir finalement dès le mois prochain. Quant aux personnels soignants qui accepteront de faire une croix sur une partie de leurs vacances de la Toussaint et de Noël, ils pourront toucher une indemnité allant jusqu'à 1100 euros pour les aides-soignants, 2000 euros pour les infirmiers. Enfin, leurs heures supplémentaires seront majorée de 50%.
Et la situation se détériore dans la métropole lyonnaise. 8 patients ont dû être transférés en Savoie pour faire de la place, annonce ce matin un infirmier en réanimation du centre hospitalier de Lyon-Sud. Et puis l'Assemblée nationale va siéger exceptionnellement ce week-end pour examiner le projet de loi prolongeant l'état d'urgence sanitaire. En Tunisie, 2 projets de loi sont actuellement débattus à l'Assemblée. 2 textes qui inquiètent la société civile. L'un porte sur l'état d'urgence, l'autre sur la protection des forces de l'ordre. Ces 2 lois, si elles sont adoptées, risquent de provoquer un sérieux retour en arrière. Correspondance en Tunisie de Maureen Mercier.
Ben Ali en révèle, la Tunisie post-révolution risque de le faire. Au nom de la lutte contre le terrorisme, le Parlement doit se prononcer sur des projets de loi qui donneraient les coups des franches aux policiers. Près de 10 ans après la révolution, les abus de pouvoir de la part des forces de l'ordre sont monnaie courante. Ce jeune homme est constamment harcelé par les policiers, soupçonné de terrorisme, totalement blanchi depuis, mais les policiers continuent de le persécuter.
J'étais arrêté pendant 8 jours. Tu peux pas dormir. Minimum 6-5 policiers te ramènent vers la chambre juste pour la torture. que nous avons frappé avec des chocs électriques. C'est un cauchemar.
Alors que les policiers puissent bénéficier d'une plus grande protection encore, l'ulcère. Hélène Leger, directrice juridique de l'Organisation mondiale contre la torture à Tunis, résume.
Ça passe ou ça casse.
Elle se bat corps et âme contre ces projets de loi.
C'est effectivement très alertant. On ne sait pas si on va revenir à un état sécuritaire fort comme c'était le cas dans le passé ou si la Tunisie va être en capacité de poursuivre son cheminement vers la constitution d'une vraie démocratie.
Le comble, ceux qui risquent de faire passer ces lois aujourd'hui sont ceux qui, à l'époque de Ben Ali, souffraient des abus policiers, les islamistes. Tunis, Maureen Mercier, France Inter.
Bruxelles annonce à l'instant un accord sur la nouvelle politique agricole commune, la PAC, une réforme destinée à mieux prendre en compte les défis environnementaux et climatiques. Des rafales de vent à 216 km/h dans les Pyrénées-Atlantiques et au pic du Midi, un vent d'autant à 100 km/h à Toulouse. La tempête Barbara souffle des Pyrénées à la vallée du Rhône. 12 départements sont en alerte orange vent violent et 50 000 foyers sont privés d'électricité ce matin dans le sud-ouest. Le vent du boulet pour les joueurs du PSG qui s'inclinent une nouvelle fois face à Manchester United pour la première journée de Ligue des Champions. Le PSG espérait une revanche face aux Anglais qui les avaient humiliés en huitième de finale en mars 2019. Eh bien, c'est raté. Le Paris Saint-Germain a été battu hier soir dans un Parc des Princes à huis clos par les Red Devils 2-1. C'est simple, Cédric Guillou, le PSG est passé à côté de son match.
Avoir été finaliste de la précédente édition n'offre aucune garantie pour cette nouvelle campagne européenne. Le PSG en a fait l'amer constat hier soir. Les Parisiens qui ont complètement raté leur retour dans cette Ligue des Champions au grand désarroi de leur entraîneur Thomas Tuchel.
C'était une performance sans intensité, sans agressivité, sans récupération de ballon, sans contre-pressing, sans intensité avec le ballon.
Fébrile défensivement, Paris a aussi été très décevant offensivement malgré la présence de Neymar, Mbappé et Di Maria. Et comme souvent avec le PSG, aucun fond de jeu collectif n'est venu compenser leur mauvais match. Éric Rabessandratana, ancien joueur parisien.
C'est un vrai souci collectif, c'est un souci aussi dans la production du jeu, parce que ça a été à coup de tentatives individualistes. Il y a plein de choses un petit peu incohérentes qui se sont passées hier. C'est plein de petits détails qui font qu'à la fin, Manchester mérite largement sa victoire.
Le PSG ne s'était plus incliné au Parc des Princes en phase de groupe depuis 16 ans, depuis 2004. Il se retrouve déjà sous pression avant son déplacement la semaine prochaine en Turquie face au Başakşehir Istanbul.
Et puis Rennes et Krasnodar ont fait match nul un partout hier soir. Et ce soir, entrée en lice de Marseille face à l'Olympiakos Le Pirée.